Kompass bringt fremde Kulturen ins Rübeland. Kompass, jetzt auf Kanal K.
Fenêtre sur Afrique avec Sylvain Amos et son équipe. Romain Koudjodi, Lucien Roncalli, Fabi Kouassi, Josué Maoli et Esteban Gagno. Fenêtre sur l'Afrique, c'est sur Radio Canal K.
Bonsoir Mogadiscio, Madagascar, Kinshasa, Yaoundé, Lomé, Conakry, Abidjan, Accra. Bonsoir à toute l'Afrique. Amis du continent noir, bienvenue à l'émission panafricaine Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K en Suisse alémanique. L'Union africaine a fêté il y a quelques jours 50 ans de son existence. Quel bilan, quelle perspective d'avenir pour ce vieux continent qu'est l'Afrique? Eh bien, pour en débattre, nous accueillerons dans un instant ce soir, dans la toute première partie de cette émission Fenêtre sur l'Afrique, trois invités panafricanistes. Merci de nous être fidèles également sur la VRA, la voix de la résistance africaine, également les gens des FM à Lomé au Togo. Dans un instant, notre éditorial sous la plume de notre collaborateur et correspondant de Fenêtre sur l'Afrique en Allemagne, Romain Koudjodi, que nous remercions déjà. Le 22 mai 1963, fin d'après-midi à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, une trentaine de chefs d'État et de gouvernement du continent africain, des plus illustres aux moins connus, s'étaient réunis. L'un d'eux était absent, le président du Togo d'alors, Nicolas Grunitzky, qui n'est pas reconnu par ses pairs depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio en 1963. Un livre ne pouvait bien tomber, circule dans les couloirs. Africa Must Unite, écrit par le président ghanéen Kwame Nkrumah. Héros de l'unité politique de l'Afrique, il est convaincu que de cette union pourrait émerger une Afrique unie, grande et puissante, dans laquelle les frontières territoriales, qui sont des reliques du colonialisme, deviendront obsolète et superflu. Pour être au service d'une complète et totale mobilisation de la planification économique, cette union, Kwame Nkrumah la conçoit sous la forme d'un gouvernement continental. Malheureusement, force est de reconnaître que 50 ans plus tard, l'Afrique a déchanté, pour ne pas dire déçu les Africains. Les belles recommandations sont devenues lettres mortes et dorment dans les tiroirs et armoires poussiéreux du continent noir. La libre circulation des personnes et des biens est encore et toujours un luxe. Au niveau sécuritaire, le continent noir est devenu la proie à des actions terroristes de grande envergure, entraînant perte de vies humaines en cascade. Les derniers événements douloureux de certains pays, pour ne citer que ceux-là, sont assez illustratif de nos propos. La Libye, le Nigeria, le Mali et tout récemment le Niger nous plongent dans une situation d'instabilité et de récession économique. Parlant d'autosuffisance alimentaire, le continent est encore et toujours à la peine. Amis auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, ouvrons notre fenêtre sur le drame qu'a connu le Mali en début de cette année 2013. La sécurité sur le continent est tellement menacée pour un menu frétin que le ridicule ne tue plus en Afrique. En vérité, seul le Tchad a été capable de venir à la rescousse du Mali avec un contingent pour laver l'affront au Mali dans la protection de l'Afrique contre le terrorisme. Sinon, c'est l'ancienne colonie française, renvoyée dans les années 50, que les Africains ont supplié de revenir les protéger. L'Afrique n'est même pas en mesure d'assumer sa sécurité après 50 ans d'existence, alors que sans sécurité, aucun continent ne peut évoluer vers la stabilité. Un soubassement fort d'une économie stable. Les armées qui doivent protéger les citoyens sont plutôt promptes à sévier pour embrigader les citoyens, les mettre sous assujettissement volontaire. Il est important de reconnaître l'échec du continent après deux générations pour réfléchir sérieusement à la pose des jalons pouvant permettre au continent de se lever, de relever les défis. Finalement, 50 ans après, les panafricanistes ont-ils raison de ressusciter le livre de Kwame Nkrumah, Africa Must United, sous la forme d'un gouvernement continental, dans un fédéralisme basé sur le respect des droits de l'homme? C'est la grande interrogation.
Votre libérateur, je vais mourir pour vous. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ses problèmes, je me demande Africa, mais quelle avenir. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ses caravés, je me demande Africa, mais quelle avenir. Des cadavres un peu partout, hein. Où est ton avenir? Du malade de Wendy. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ses problèmes, je me demande Africa, mais quel avenir? Quand je regarde l'Afrique, avec tous ses caravés, je me demande Africa, mais quel avenir? Au matin, ma carabonne. Regardez l'Europe, partout là-bas c'est la joie. Les genoux en Afrique, la haut, la chasse au foyer. Les genoux en Afrique, c'est la dictature. Genoux en Afrique, la haut, la guerre civile. Regardez l'Amérique, partout là-bas c'est la paix. Les genoux en Afrique, la haut, la chasse au foyer.
Ayon Africa, chanté par le Camerounais Longuel Oguet, qui décrit ici tous les maux de l'Afrique, la misère, la guerre. Merci de votre fidélité dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique.
Le micro de Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos sur Radio Canal K.
L'Union africaine a fêté ses 50 ans il y a quelques jours. Rappelons que l'organisation de l'unité africaine OUIA a été créée le 25 mai 1963 à Addis Abeba. 50 ans après, l'Afrique souffre de tous les maux. Démocratie, développement durable, insécurité, etc. Après 50 ans, la présidente de la Commission de l'Union africaine parle encore de renaissance de l'Afrique. Eh bien, au cours de cette assise marquant les 50 ans de l'Union africaine cette semaine, Nkosazana Dlamini Zuma affirme « Le néocolonialisme, ça continue ». Eh bien, pour le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Tedros Adhanom, quant à lui, a osé le dire plus haut et dit « Si 50 ans après, nous n'avons pas réalisé les rêves de nos pères fondateurs, c'est aussi par manque de leadership et de gouvernance. » Eh bien, 50 ans après la création de l'Union africaine, quel bilan, quelle perspective d'avenir pour l'Afrique ? C'est le débat de ce soir. Eh bien, pour en débattre, nous avons tout de suite en ligne, en direct depuis Vienne et Paris, deux panafricanistes. Nous prenons tout de suite Dr Yves Ekweyamaizo. Bonsoir.
Bonsoir, Amos.
Merci de participer à ce grand débat. 50 ans de l'Union africaine, 50 ans après, quel bilan, quelle perspective d'avenir pour l'Afrique. Également, depuis Paris, je viens de le dire, nous avons Laza Kizerbo. Bonsoir.
Bonsoir, Sylvain.
Merci de participer à cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, docteur Yves Ekweyamaizo est docteur en économie, consultant international, coordinateur du CVU Togo Diaspora, collectif pour la vérité des unes. Et à Paris, il va réagir en direct depuis Vienne en Autriche. Et Lazare Kizerbo réagit depuis Paris. Il est africain de l'État du Burkina Faso. Il est docteur en philosophie, fonctionnaire international de la francophonie, direction des droits de l'homme. Eh bien, messieurs, tout de suite, la toute première question que je vais soumettre d'abord au docteur Yves Ekweyamaizo. Docteur Yves Ekweyamaizo, une grande messe réunissant à Addis Abeba des chefs d'État africains, de gouvernement, de personnalités du haut rang, y compris le président François Hollande, qui s'est tenu la semaine dernière pour commémorer le 50e anniversaire de l'UIA, également appelé UIA après. Hein. Alors, quel état des lieux aujourd'hui sur l'unité du continent, selon vous, et pourquoi la présence de François Hollande à Addis Abeba, docteur Yves Ekweyamaizo?
Écoutez, merci pour l'invitation d'abord. Pourquoi 50 ans? Parce que c'est un anniversaire, mais quel anniversaire? L'anniversaire de constater que finalement, beaucoup de choses n'ont pas été faites. On parle de bilan mitigé, il faut être très sérieux, c'est un mauvais bilan. C'est un mauvais bilan parce que la grande majorité des dirigeants ne sont pas élus. Les grands pays africains et les Africains eux-mêmes ne sont pas unis. On parle d'unité africaine après tout. Les budgets des États, ils ne contribuent pas. 5 ou 6 États qui contribuent pour 54, ce qui n'est absolument pas normal. Les bilans et les audits ne sont pas faits. Et il n'y a pas donc de sanctions réelles sur les gens qui ne respectent pas, que ce soit en économie ou dans tel ou tel domaine. On a changé de l'OUA à l'UA en 2000, c'est très bien. En fait, on a surtout avancé sur la bureaucratie. Le Maroc, 55e État, est toujours en dehors de cette institution, ce qui n'est pas du tout normal. Et tout ça pour faire court, le président Alpha Condé, d'ailleurs, l'a bien résumé. Il a dit simplement, c'est une honte pour nous que 50 ans après, on soit encore obligé d'applaudir au fond la France parce qu'elle est venue sauver pour ce qui est du Mali dans les interventions qu'elle a faites. Donc concrètement, sur pratiquement tous les sujets, les chefs d'État africains refusent de payer pour soutenir cette organisation. À partir du moment où il n'y a pas d'argent et que l'essentiel de l'argent vient de l'extérieur, notamment pour tout ce qui est assistance technique et soutien, vous comprenez que ce n'est pas une politique en fait africaine ou panafricaine qui est en jeu. Et encore moins, ça pose le problème du sérieux de ces chefs d'État, pour ne pas dire carrément qu'ils finalement ils sont d'abord soucieux de satisfaire les intérêts extérieurs ou étrangers, voire des ex-colonies, avant celles d'abord de l'Afrique en tant que continent, et encore moins celles des populations en tant que population africaine.
Absolument. Lazare Kizerbo, alors 50 ans après la création de l'unité de l'Union africaine, hein, quel bilan, quelle perspective d'avenir pour ce vieux continent d'Afrique? Alors, pourquoi François Hollande à Addis Abeba, selon vous?
Écoutez, je dis dit bonsoir aussi à mon ami et frère Yves. Je pense que 50 ans après, il ne faudrait pas réduire la commémoration à quelque chose d'anecdotique, c'est-à-dire qui était là, qui n'était pas là. C'est vrai que en 1963, il n'y avait que quelques des chefs d'État africains, et on peut se dire pour 50 ans, la communauté internationale a changé. C'est normal que pour l'occasion spécifique, ce sommet puisse être ouvert aux personnes qui sont partenaires ou aux États qui sont partenaires de l'Afrique. Et je pense que ça a été le cas récemment. On peut s'en réjouir ou le déplorer de la situation au Mali. Alors, pour moi, ce qui est important, c'est de savoir d'où on vient et où on va pour pouvoir mieux mesurer et appréhender le chemin parcouru. Je pense qu'on part d'une situation de décolonisation partielle. En 63, il n'y avait pas encore tous les États, notamment ceux de la ligne de front, de l'Afrique australe, Mandela et autres étaient encore en prison. Et donc, pendant plusieurs décennies, il y a eu une évolution à double vitesse. Il y a eu les États encore dominés, en tout cas en lutte pour leur libération, appuyés par le comité pour la libération de l'Afrique qui était basé en Tanzanie. Et ça, c'était un peu le programme panafricaniste originel de l'Union africaine. Et d'un autre côté, c'est vrai, il y avait des États qui sont en train de se renforcer dans leur souveraineté. Donc, je crois que jusqu'à ce que l'Afrique du Sud et d'autres rejoignent, l'OUA est restée dans une sorte de compromis. Jusqu'en 1994, quand Mandela est arrivé avec le discours de la Renaissance africaine. Donc ça fait à peine une vingtaine d'années. Et je pense qu'il y a une dynamique qui est là et c'est une transition. Et j'espère que la dynamique de la Renaissance va l'emporter.
Justement, on espère bien. Alors, on parle toujours de l'Union africaine qui fête ses 50 ans d'existence. 50 ans d'existence, quel bilan, quelle perspective d'avenir pour cette Afrique. Alors, Dr. Yves Amaizo, deux cultures s'affrontent depuis toujours quand il s'agit de l'unité africaine. Alors, une culture qui porte la vision du panafricanisme selon les pères fondateurs tels que Kwame Nkrumah, que vous connaissez très bien, Julius Nyerere, Amilcar Cabral, etc. Et l'autre, c'est la culture de l'affairisme qui porte et supporte le colonialisme sous toutes ses formes. Alors, à regarder l'état du continent, cette dernière semble majoritaire, Dr. Yves Kouyamaïzo. Alors, finalement, l'unité africaine peut-elle se mettre en œuvre par des leaders qui ne sont pas forcément panafricanistes, Dr. Yves Kouyamaïzo?
Non, la réponse, elle est claire. Il faut d'abord croire à la vision et aux objectifs. Et je ne pense d'ailleurs pas que les chefs d'État, même ceux que vous citez comme étant très, très proches de tout ce qui peut s'associer à la corruption, ne croient pas à cela. Ils croient à cet idéal-là. On a deux problèmes. J'ai bien écouté ce qu'a dit M. Lazare Kizerbo tout à l'heure. Oui, la dynamique, telle qu'il dit, de la Renaissance africaine, il faut d'abord faire très attention qu'il ne s'agisse pas d'une dynamique plutôt sud-africaine et non pas panafricaine, parce qu'il y a quand même un rapport de force qui n'est pas très clair, surtout avec le président Zuma ces temps-ci, c'est la première chose. La deuxième chose, la vitesse, elle est quand même lente de cette dynamique, et donc il ne faut pas non plus tomber dans le piège des chefs d'État qui se font de l'autosatisfaction toutes les cinq minutes, et finalement, au fond, bien sûr qu'il y a eu des avancées, on ne peut pas les nier ici et là, mais il faut quand même comparer ce qui est comparable, comparons-nous à l'Asie et à l'Amérique latine, ça ne va pas sincèrement, même au niveau des allures et de la vitesse. Ça, c'est sur le fond. Maintenant, oui, il y a un certain nombre de chefs d'État et de responsables qui souhaitent vraisemblablement que les choses avancent. D'ailleurs, ceux-là sont ceux qui contribuent réellement. Malheureusement, encore une fois, on ne pourra pas faire avancer cet ensemble de continents à partir du moment où chacun ne contribue pas. Il faut, je suis économiste d'abord, il faut d'abord mettre de l'argent dans la calebasse. La calebasse africaine, elle est trouée. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. 54 pays ne peuvent pas venir dans cette institution et seulement 5 ou 4 pays. Et le reste vient de l'Union européenne ou de l'extérieur. Il faut arrêter de rêver cette histoire. Donc il n'y a pas aujourd'hui d'anniversaire qui tienne. Le seul cadeau d'anniversaire qu'on a eu, c'est la présidente du Brésil qui a annulé l'ensemble des dettes qu'elle a sur l'Afrique. Et sincèrement, beaucoup de chefs d'État auraient mieux fait d'apprécier et de féliciter cela. Non, en réponse, elle a eu 10 ou 15 minutes de coupure d'électricité juste avant de parler, avant de pouvoir parler, alors que cette grande salle a été inaugurée il n'y a pas longtemps, d'ailleurs construite et financée par les Chinois. Donc voilà encore une grande salle faite par les Chinois. Qu'est-ce que font ces Africains de l'ensemble des richesses qu'ils ont pu prendre à partir des matières premières? Qu'est-ce qu'ils font avec? Il faut arrêter de dire que tout va bien et qu'on va doucement et que ça va aller mieux et ça ira mieux demain. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a eu un programme pour 2063. Un programme stratégique qui aurait dû être présenté pour 2063. C'est-à-dire que où est-ce qu'on sera à peu près dans 50 autres années? Est-ce que vous savez que ce rapport n'a même pas été terminé, n'a même pas au fond été produit et disposé? Et le président éthiopien, qui est le président en exercice actuellement de l'Union africaine, était tellement gêné qu'il a finalement dit qu'il s'agissait d'un document dans lequel, bon, on n'a pas encore commencé à voir même les premiers objectifs. Concrètement, c'est quoi? C'est que les États n'ont pas envoyé les objectifs qu'ils voulaient atteindre, c'est-à-dire qu'ils s'en foutent, il faut dire le mot exact français. Deuxièmement, ils ne voulaient pas mettre un budget derrière, on revient au problème économique. Et troisièmement, quand la Commission a voulu proposer quelque chose, ils ont estimé que non, la Commission n'est pas, entre guillemets, habilitée pour le faire. Ça pose quoi comme problème, et je finirai là-dessus, c'est qu'il faut revenir à un système démocratique. Personne n'est élu dans cette institution-là. On ne peut pas continuer encore pendant 50 ans à avoir des gens qui ne sont pas élus. Et ce n'est pas parce que l'Union européenne a des difficultés pour le faire, ou d'autres régions ont des difficultés pour le faire, que nous, Africains, nous devons suivre leur modèle. D'ailleurs, ces modèles copiés ne fonctionnent pas, vous le savez très bien. Les États-Unis d'Afrique, ça n'a pas fonctionné. Hein. La commission de paix et sécurité de l'Union africaine sur celle des Nations Unies, c'est une vaste bureaucratie. Vous voyez bien les résultats, c'est la France qui finance la guerre au Mali. Et quand vous revenez au fond sur le fonctionnement même, on a voulu informatiser la prise de décision. La plupart des gouvernements ont refusé carrément parce qu'ils préfèrent voyager, aller à l'Union africaine pour ne pas dire accompagner avec leur deuxième, troisième ou quatrième bureau. Il faut dire la vérité, que les gens qui nous écoutent savent justement que cette Afrique ne marche pas à cause aussi des Africains eux-mêmes.
Merci docteur Yves Ekwe Amaizo. Alors Laza Kizerbou, on parle de l'Union africaine. Là, deux cultures s'affrontent. Je viens de l'évoquer. Le panafricanisme qui implique également la souveraineté des États africains. Et l'autre culture, c'est l'affairisme qui porte et supporte le colonialisme sous toutes ses formes. Alors finalement, l'unité africaine peut-elle se mettre en œuvre par des leaders qui ne sont pas forcément panafricanisme? C'était la question.
Ben, écoutez, vous savez, la vision de l'histoire, elle varie. Je pense qu'on peut tomber dans une sorte de pessimisme actif. Il faut qu'il soit actif, c'est-à-dire être lucide, voir ce qui ne marche pas, voir les obstacles. Parce que comme dit le proverbe africain, quand tu es tombé, ne regarde pas où tu es tombé, mais où tu as chuté. Il y a eu beaucoup de chutes. Il y a eu la chute même de certains leaders panafricanistes tels que
quand on chute, il faut se relever.
Voilà la chute sanglante de Lumumba et d'autres. Mais il faut identifier les résistances et les obstacles. Moi, je pense que un des problèmes, vous pouvez avoir une jarre qui est percée en permanence si vous restez dans le cadre institutionnel d'une organisation intergouvernementale ou d'une organisation internationale. Le conflit dont vous parliez à l'origine, en 63, c'était un conflit entre une position sur l'abandon réel de souveraineté, et donc une union politique organique, et ceux qui étaient pour la coopération avec des souverainetés nationales. Et là, quand on est dans un dispositif intergouvernemental, tout se négocie. Et quand on n'a pas la volonté de renoncer totalement ou partiellement à sa souveraineté, bon, pourquoi on va investir dans ce projet d'Union africaine ou d'organisation de l'unité africaine? Donc je pense qu'il faut plutôt identifier les obstacles au mouvement panafricaniste ou panafricain. Pourquoi n'arrive pas à avoir une sorte d'hégémonie sur le continent? Quelles sont les résistances? Quelles sont les forces hostiles? Et ne pas penser que bon, si du jour au lendemain tous les États se mettent à payer leurs cotisations, la machine va se remettre en marche. Il faut vraiment un projet panafricain, il faut l'actualiser. Ça ne peut pas être comme en 63, le contexte mondial et continental a changé. Il y a des régions de la diaspora aujourd'hui qui manifestent vraiment leur intérêt pour l'Afrique. La première ministre de Jamaïque était là et c'est quelque chose de positif. C'est l'expression symbolique de la présence de la sixième région qu'est la diaspora. Donc pour moi, je crois que il faut effectivement identifier les acteurs hostiles au panafricanisme, mais il faut aussi que le mouvement panafricaniste lui-même fasse son bilan et voir quelles sont les méthodes et l'organisation qu'il doit mettre en place pour remporter l'hégémonie sur l'échiquier de l'Union africaine et du continent africain.
Justement, là, merci beaucoup, Lazare Kiserbo. Nous parlons justement de l'Union africaine, 50 ans après l'Union africaine, qu'est devenue l'Afrique, bilan et perspective d'avenir. Parlons maintenant d'économie, puisque sans l'économie, il n'y a rien. Hein. Docteur Yves Ekwe Amaizo, je le disais, il est docteur en économie, consultant international, coordinateur du CVU Diaspora Togo, collectif pour la vérité des unes. Tout de suite, cette question économie qui parle de l'économie africaine. Hein. Alors, des voix s'élèvent de plus en plus en Afrique, également dans la diaspora, hein, pour demander la création d'une monnaie commune pour l'Afrique. Alors, peut-être que la guerre mondiale des monnaies dollars, euros, yens et tchikidera, hein, a fini par ouvrir les yeux aux Africains. Alors, une Afrique libérée, émancipée, ne passe-t-elle pas forcément par le rejet du franc CFA, Dr. Yves Ekwe Amaizo?
D'abord, il n'y a pas de guerre en tant que telle entre les monnaies, puisque depuis 1973, 71, 73, Nixon a fait que nous ne pouvons plus convertir les monnaies dans une monnaie marchandise qui était l'or. Donc les monnaies se comparent entre elles. Et bien sûr, finalement, quand vous regardez bien, elles se comparent par rapport à leur rapport de force militaire et leur rapport de force économique. Ce qui ne posait pas de problème à l'époque, dans les années 70, puisque les Américains étaient en tête de quasiment tout et ils fabriquaient le dollar qu'ils mettaient un peu partout. L'évolution récente a fait que tout cela s'est quasiment inversé. La plupart des grandes créances aujourd'hui sont chez les Chinois. Les Américains sont endettés jusqu'au cou chez les Chinois. Et donc, toute leur stratégie, c'est essayer de faire que la valeur de leur dette baisse. Et donc, à ce moment-là, oui, ils essaient de faire en sorte de faire pression que, oui, on puisse dévaluer ici et là des monnaies qui ne sont pas la leur, tout en eux faisant une sorte de croissance basée sur ce qu'on appelle le quantitative easing, qui est en fait une forme de création de papier monnaie. Tout ça, c'est un peu technique, mais par rapport à l'Afrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème n'est pas là pour le moment. Le problème est que la monnaie unique dont vous parlez, que nous appelons, nous, économistes, une monnaie commune, et la Banque Centrale Africaine qui va avec, qui permet des compensations entre tous les pays africains, ça a été demandé en 63. 63, ça a été demandé. En même temps que la Banque Africaine de Développement, d'ailleurs. Pourquoi on a créé la Banque Africaine de Développement quelques années après? Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas fait. On n'a même pas fait le Fonds Monétaire Africain. J'étais l'expert pour ça, pour l'Union Africaine. On n'a toujours pas fait. Pourquoi? Il y a bien des blocages, comme dit mon ami Kiserbo. Mais c'est pas le fait de les identifier, on les connaît. C'est pas le fait de ne pas avoir un programme, il y en a les programmes, il y en a même plusieurs en fait. Mais il n'y a aucune décision qui arrive à se prendre, parce qu'on n'a pas des modalités de prise de décision dans cette institution. Ce sont des discussions, des donnant-donnant entre chefs d'État, et qui finalement reviennent à celui qui est le plus fort et qui donne le plus d'argent, à celui qui est le plus faible et qui finalement accepte. Voilà comment ça se passe. On ne peut pas continuer à fonctionner sur cette base-là. Donc les stratégies, il y en a plein. Est-ce que la diaspora même dont on a parlé a eu la chance de pouvoir proposer cela? Non. Donc, il faut quand même revenir à cela. Et la diaspora ne se limite pas à des hommes d'État, que ce soit la Jamaïque, Haïti ou ailleurs. Il y a des groupes de la diaspora qui sont là. On a même demandé un fonds et une banque de la diaspora. Ça n'a pas été pris en compte. Alors, revenons sur votre question sur le fond. Alors, ce problème de monnaie, c'est d'abord une volonté d'avoir une discipline interne africaine. On ne peut pas avoir des gens qui sont systématiquement, structurellement déficitaires. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de faire un peu de surplus et en même temps prendre ce surplus pour aller aider le voisin s'il a des difficultés. Comme nous le sommes incapables de le faire, nous allons où? À l'international, Fonds monétaire international et banques internationales, etc. Et donc il faut arrêter cela. Et si vous ne l'arrêtez pas, celui qui a le plus d'argent, prenons le Nigeria ou l'Afrique du Sud dans les grands pôles, ben écoutez, il ne peut pas passer son temps à aller payer pour celui qui gère mal. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème. D'ailleurs l'Europe a le même problème entre l'Allemagne et la France par exemple ou les pays du Sud. Deuxième élément, dans l'espace grand monétaire, on n'est pas allé vers une monnaie commune. On n'est même pas allé vers une monnaie commune au niveau sous-régional. Donc, les États refusent d'y aller. Et certains États, essentiellement francophones, ont choisi la zone franc, donc avec le franc CFA. Le franc a disparu, nous sommes encore là-dedans, même pas le courage de changer le nom. Et nous sommes liés, en fait, à l'euro. Mais l'euro est relativement surévalué, ce qui nous empêche la plupart de nos exportations d'avoir lieu dans des conditions acceptables, surtout pour ceux qui exportent. Sans compter la dette elle-même qui est renchérie. Donc tous ces éléments qui ne vont pas dans l'intérêt et de nos populations et bien sûr de nos pays, on ne le modifie pas. Donc on revient au problème de base. C'est-à-dire que les chefs d'État qui sont là, s'ils représentaient les populations et donc ils souffraient avec la population, ils n'accepteraient pas des trop élevés de la monnaie. Donc soit ils considéreraient qu'il faudrait le dévaluer, soit ils changeraient de monnaie et arriveraient à des paliers de monnaie plus intéressants ou carrément une monnaie africaine. Chaque fois ils l'ont dit, Chaque fois, ils ont repoussé dans le temps. Nous sommes à 2023 aujourd'hui pour les prospectives pour la monnaie dite unique ou commune. Et il paraît que ça va être repoussé encore de 10, 15, 20 ans. Et vous avez vu, on parle de 2063. Voilà comment les chefs d'État fonctionnent en réalité. Dans le présent, le problème, c'est quoi? Ben, écoutez, si on ne résout pas le problème, quelqu'un va le résoudre. Hein. La nature a horreur du vide. Donc, on va chercher l'argent là où il est. Oui, voilà comment, par exemple, on fait à la Banque Centrale Africaine. Nous avons dû aller chercher l'argent auprès des Européens, à la Banque Centrale Européenne. Vous imaginez que si l'Union Européenne et la Banque Centrale Européenne vous financent vos experts pour aller faire une étude sur votre Banque Centrale Africaine, vous pouvez être sûr que votre Banque Centrale Africaine ne va pas s'opposer aux intérêts de la Banque Centrale Européenne.
Merci.
Voilà ce qui se passe aujourd'hui.
Merci Dr. Yves Kouyamaïso, Lazare Kiserbo, merci quand même de patienter depuis Paris où vous suivez cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Nous débattons du thème 50 ans après 50 ans de création de l'Union africaine, quel bilan, quelle perspective d'avenir pour ce vieux continent, l'Afrique? Parlons justement de l'économie. Alors, Lazare Kiserbo, hein, une Afrique libérée, émancipée, ne se passe pas forcément par le rejet du franc CFA, hein, dont on sait et qu'il est quand même arrimé monétairement à l'euro aujourd'hui après le franc le franc français hier. Hein. Alors finalement, le franc CFA a-t-il encore valeur d'existence à partir du moment où le franc français n'existe plus, Lazare Kiserbo?
Écoutez, je suis philosophe de formation, je me garderai de faire des analyses sur les questions monétaires, c'est assez complexe.
Oui.
Mais ce que je peux dire, c'est que le problème qui se pose 50 ans après les indépendances, je pense qu'elles sont là, ces indépendances, c'est la question de la souveraineté. Une chose est d'avoir un drapeau, un État, et une chose est de manifester dans la réalité sa souveraineté. Et ça, il y a la souveraineté monétaire, la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire pouvoir produire suffisamment pour nourrir sa population, et d'autres formes de souveraineté. Donc, à ce titre-là, je pense que la question et le principe du débat que vous avez inauguré est juste. Maintenant, les solutions, je pense qu'il y a assez de richesses sur le continent produites pour garantir des monnaies ou une monnaie commune plus tard. Nous avons vraiment des États nantis qui commencent à avoir des ressources énormes. Je pense aux pays qui sont exportateurs de matières premières telles que le pétrole, etc., l'Angola, la Guinée équatoriale. Donc, sur le papier, si cette richesse produite était convertie vraiment pour les intérêts des États et de l'Afrique, c'est tout à fait envisageable d'avoir une monnaie commune. Maintenant, la question, c'est effectivement que les décisions qui seraient conformes à l'intérêt des peuples africains ne sont pas prises, parce que le fonctionnement de l'Union africaine est encore un fonctionnement qui reproduit à plus grande échelle ce qui se passe dans les États, c'est-à-dire que l'exécutif est complètement indépendant des autres sphères de la démocratie que sont le Parlement. Encore faut-il un Parlement pluraliste et d'autres sphères telles que l'opinion publique, la société civile, etc. Donc on a effectivement des mécanismes institutionnels qui sont complètement coupés des attentes et des aspirations de la majorité des peuples africains. Parce que l'idée panafricaine est une idée populaire. Quand vous faites vraiment, si vous faisiez un sondage dans la jeunesse, les peuples aspirent à cette unité. Mais les appareils gouvernementaux et exécutifs sont construits plutôt pour l'extérieur, pour servir d'intermédiaire pour les flux en matière de coopération ou les transactions diplomatiques, ce qui fait qu'il y a une coupure. Alors voilà, le problème est posé. Maintenant, il faut trouver les mécanismes pour que cette attente populaire, cette quête populaire se manifeste. Sinon, on en arrive à des catastrophes comme au Mali et d'autres encore qui sont peut-être
justement en situation, malheureusement. Merci, Lazare Kiserbo. Après 50 ans, l'Afrique présente beaucoup de problèmes, développement durable, insécurité, problèmes d'économie, c'est quand même dur pour ce vieux continent africain. Et lors quand même de cette journée de commémoration, le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Tedros Adhanom, hein, quant à lui, a osé le dire, je vais quand même de l'évoquer, il affirmait, si c'est quand après nous n'avons pas réalisé les rêves de nos pères fondateurs, c'est aussi par manque de leadership et de gouvernance. Quel commentaire faites-vous, docteur Yves Kouamaïso?
Écoutez, je ne peux pas faire mieux que de confirmer et de soutenir ce qui a été dit par le ministre des Affaires étrangères, qui a été repris d'ailleurs par son chef d'État beaucoup plus tard. Mais pour aller plus dans le fond de cette histoire, c'est facile de constater. Je veux dire, on n'est pas là pour constater, on n'est pas là pour blâmer, nous sommes tous des Africains. On est là pour dire, mais pourquoi ça ne marche pas? Et si on le sait, puisqu'on a trouvé les solutions, pourquoi ça ne change pas? Donc il faut arrêter quelque part quand même de toujours finalement se plaindre. Hein, c'est se plaindre que de dire que oui, ça ne marche pas. C'est de se plaindre que de dire que oui, finalement, on n'a pas fait assez de progrès, qu'on pourrait faire mieux, etc. On passe son temps à rêver. Il faut arrêter de rêver fondamentalement dans un monde compétitif dans lequel ben, nous ne sommes pas mieux placés qu'un autre. Et surtout, nous avons un peu plus d'argent que par le temps. Ça fait 10, 12 ans que nous avons une croissance de 4-5%, ce qui fait que nous avons quand même les moyens aujourd'hui de pouvoir avoir une politique. Mais je reviens à mon point de départ. On ne peut pas être à 54 et il n'y a que 4 ou 5 qui payent. Ça, sincèrement, je ne peux pas accepter ça depuis 63. C'est la première chose. Et la deuxième chose, ceux qui ne payent pas sont tellement contents que quelqu'un d'autre de l'extérieur paye et vienne financer leurs activités. Ce qui est beaucoup plus grave. C'est-à-dire qu'il y a un manque de respect total, et d'abord pour l'Union africaine elle-même, et pour le panafricanisme. Donc, pour moi, sincèrement, il faut reconnaître qu'il y a parmi les 54 des gens qu'il faut qualifier de traîtres à la cause du panafricanisme d'abord, et tout simplement à l'unité africaine, pour ne pas dire l'unité des Africains. Comment se fait-il qu'on ne peut pas circuler sur ce territoire pratiquement sans visa, hein, ou passeport commun? La CEDEAO l'a un peu fait, quoiqu'il y a quelques difficultés dans le commerce actuellement. Comment se fait-il que les frontières sont restées dans l'état où ils sont? On ne peut pas construire un avenir sur des bases coloniales, encore moins sur des frontières coloniales. Frontières coloniales ne veut pas dire qu'elles vont sauter. Les gens qui vivent dans les frontières et savent comment ils se débrouillent, ils parlent généralement 2, 3, 4 langues de la zone. Donc, on a plusieurs formes africaines pour résoudre ces problèmes. Le problème, c'est qu'il y a un refus total de lever l'intangibilité des frontières. Mais qu'est-ce que c'est que le problème du Mali? C'est bien la levée de l'intangibilité des frontières, puisque c'est l'espace Touareg qui a envie de se restituer, comme on le voit avec les Kurdes et la Turquie actuellement, ou même dans l'Irak. Quel est le problème de l'Érythrée et l'Éthiopie? C'est bien les problèmes des frontières. Le Sud-Soudan et le Soudan, c'est bien les problèmes de ces frontières. Bien sûr, c'est attisé par l'extérieur qui veut accéder au pétrole et à un certain nombre de matières premières. Mais avant tout, si nous nous asseyons pour discuter, ça se passerait bien. Allons sur le domaine juridique. Pourquoi Gbagbo se trouve encore là-bas alors qu'on ne trouve rien dans son dossier? Alors que ce serait l'élément qui changerait les conditions de la Côte d'Ivoire pour le remettre sur un pays qui va devenir un pays émergent, comme il le souhaite, bien qu'il se trompe sur 2020, c'est beaucoup plus tard. Tous ces éléments-là montrent bien qu'il y a des blocages internes qui sont des dogmes de certains chefs d'État qui ne représentent pas leur population. Et de cette légitimité tronquée, nous avons tous ces éléments que vous voyez, entre le retard, entre le fait de continuer à dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, entre le fait de rester dans l'histoire tout le temps. Dès qu'on parle panafricanisme d'ailleurs, c'est toujours dans l'histoire. Alors que le panafricanisme, bien que ce soit populaire, et ça je suis d'accord, c'est quelque chose d'ailleurs de dynamique et de futuriste. C'est un avenir commun ensemble d'un peuple noir qui a grandi et qui s'est élargi et qui veut apporter sa civilisation de paix à l'extérieur. À ce que je sache, l'Afrique n'a jamais agressé un seul pays dans le monde, alors que les pays occidentaux ne peuvent pas dire la même chose. Donc c'est très important d'avoir cette nouvelle culture-là et de l'exposer. Pour le faire, il nous faut cotiser ensemble sur les objectifs communs.
On va revenir sur les solutions hein, quand même, puisque quand il y a des problèmes, il y a toujours des solutions. Lazare Kiserbo depuis Paris, je le disais, il est africain de l'État du Burkina Faso, docteur en philosophie, fonctionnaire international à la francophonie, direction des droits de l'homme. Merci quand même d'être avec nous, de nous accompagner sur ce débat. C'est content de l'unité africaine, quel bilan et quelle perspective d'avenir pour l'Afrique. Je posais cette question à Dr Yves Ekouamaïso qui est en direct avec nous depuis Vienne en Autriche. Et le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Tedros Adhanom, a quand même mis l'accent. Hein. Il a dit c'est par manque de leadership et de gouvernance que l'Afrique n'arrive pas à se développer. Quel est votre avis?
Oui, je précise que je parle aussi en tant que membre du comité international et de la fondation Joseph Kiserbo. Oui, ce constat a été fait plusieurs fois sur, la malgouvernance en Afrique, c'est-à-dire la prédation des ressources et la non-participation des peuples à la définition des politiques publiques, le manque d'intérêt des politiques publiques justement pour satisfaire les besoins de la population. Donc le constat est fait. Je pense qu'il faut voir les choses en termes de transformation de processus. Quelles transformations sociales sont à l'œuvre aujourd'hui sur le continent qui peuvent permettre une transformation positive puisque nous sommes dans une phase de croissance? Mais comme on sait, la croissance à elle seule ne constitue pas le développement. C'est-à-dire un développement endogène correspond aux besoins et à la participation populaire. Donc je pense qu'il faut se rendre compte qu'il y a un grand nombre d'États aujourd'hui où les citoyens sont confrontés à des violations graves des droits de l'homme. La liberté d'expression n'existe pas. Et donc les ressources et les richesses nationales sont accaparées par un clan. C'est constaté. Malgré la répétition des élections, les élections qui devraient être un mécanisme d'expression politique sont devenues aujourd'hui une source de conflit parce qu'elles sont accaparées, tronquées. Et donc, il faut trouver des mécanismes pour que les aspirations populaires, que les organisations citoyennes, les organisations démocratiques puissent véritablement infléchir le cours des politiques publiques. Alors, vous allez me dire, oui, vous dites ça depuis Paris, mais concrètement, comment ça peut se faire?
Je crois justement, que oui.
Il faut des alliances. Il faut des alliances, non seulement au niveau national, entre les franges de la population qui sont porteuses de ces changements. Bon, on sait que les jeunes aspirent au changement. On sait que les partis politiques, notamment quand ils sont dans l'opposition, font des propositions, mais restent peu audibles parce que, justement, les ressources publiques sont accaparées par le parti dominant. Donc, je pense que c'est un processus d'organisation et d'alliance entre ces différents groupes qui permettra, suivant chaque solution, parce que 55 États, la situation n'est pas la même partout, d'apporter des changements qualitatifs qui vont peser sur l'image générale de l'Afrique. Je pense qu'ici ou là, il y a eu des transformations. Il y a 20 ans, le Mali avait fait cette jonction entre la jeunesse scolarisée et sidentine et les forces politiques qui étaient favorables au changement démocratique. Ça a marché, mais la démocratie, il faut être toujours vigilant. Et je pense qu'il y a eu, au bout de ces 20 ans, un délitement progressif qui a fait que la classe politique qui avait porté le changement à un moment donné a été coupée à nouveau des objectifs et de l'idéal progressiste qui était là au départ, si bien qu'on a abouti à la catastrophe actuelle. Il y a eu des changements au Sénégal. Vous avez vu que là aussi la jeunesse, notamment urbaine, s'est mobilisée et a fait jonction avec les forces du changement et il y a eu des transformations. Donc je pense que chaque situation à ses spécificités, mais il n'y a pas de solution. Il faut travailler, il faut se battre et c'est un combat.
Merci.
La transformation, c'est un combat. Il ne s'agit pas d'identifier les solutions simplement, mais il faut savoir que c'est un combat sur le terrain.
Merci beaucoup, Lazare Ki-Serbo, pour ces approches de solutions pour un développement durable économique pour l'Afrique. L'Afrique, nous marquons une pause.
TogoCity.com, IssiLomé.com, CVU-Togo-Diaspora.org, MO5-Togo.com, Togo-Online.co.uk sont nos sites d'information partenaires de Fenêtre sur l'Afrique. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Fenêtre sur l'Afrique. Interview. analysant, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Eh bien, merci de nous être fidèles dans cette toute première partie de cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Nous débattons du thème 50 ans de l'Union africaine. Quel bilan et quelle perspective d'avenir pour ce vieux continent d'Afrique? Nous débattons avec des panafricanistes en direct depuis Paris, Lazare Kizerbo, africain de l'État du Burkina Faso, docteur en philosophie, fonctionnaire international à Francophonie, direction des droits de l'homme. Également en direct depuis Autriche, à Vienne, hein, et depuis l'Autriche, Vienne précisément, docteur Yves Ekwe-Amaizo, et il est docteur en économie, consultant international, coordinateur du CVU Togo Diaspora, collectif pour la vérité des unes. J'espère qu'ils sont toujours en direct avec nous dans cette émission. Nous parlons justement, je le disais, des 50 ans de l'Union africaine. Quel bilan, quelle perspective d'avenir pour l'Afrique? On a abordé les sujets économiques et également un petit peu les sujets politiques. Alors, vous avez également évoqué le côté économique, le pourquoi l'Afrique n'arrive pas à se développer. Il y a aussi ce côté du colon français que l'Afrique ne peut jamais oublier. Alors, François Hollande, la preuve, là, François Hollande a assisté à la commémoration du 50e anniversaire de l'Union africaine. Alors, docteur Yves Ekwe-Amaizo, moi je reviens encore sur la présence de François Hollande. Quel aujourd'hui est le lien entre l'Afrique et la France?
D'abord, il faut dire que François Hollande, président de la République de la France, qui se déplace, il était le seul président présent là-bas, c'est d'abord une marque de respect. C'est une marque de rupture avec le passé, tel que la France fonctionnait. Il a aussi écouté. Il aurait dû peut-être annoncer l'annulation des créances françaises sur l'ensemble des pays africains. Il ne l'a pas fait. Madame Rousseff, présidente de Brésil, l'a fait, 900 millions de dollars. Donc sur ce plan, les pays émergents, les pays du tiers-monde, ex-pays faibles, comme le Brésil, sont devenus des pays émergents qui aujourd'hui arrivent même à annuler nos dettes, et c'est tout à l'honneur du Brésil. Mais sur la relation France-Afrique, lui-même, François Hollande, a dit qu'il ne voulait plus entendre parler de la France-Afrique. Lui-même voulait en fait une sorte de francophonie économique, mais on n'en a pas vu la couleur aujourd'hui, mais il a 5 ans pour le faire. Alors la réalité, elle est toute simple, c'est quand on arrive aux affaires et qu'on en a une dette colossale en France, et qu'on a doit atteindre 3% de budget, ce que demande l'Union européenne, il faut d'abord satisfaire l'urgence, et c'est ce qu'il fait. Malheureusement, il y a eu un certain nombre de problèmes avec le Mali qui a augmenté cette part de budget aussi. Et certainement, c'est pour ça qu'il demande que chacun mette un peu la main à la pâte pour mettre un peu d'argent dans cette calebasse. Et encore une fois, les Africains sont plutôt absents et donc le tout qui est remonté au niveau international. Alors cette relation avec l'Afrique, elle se fait comment? Mais au cas par cas. Au cas par cas. Il y a des cas où vraiment il soutient la démocratie à fond. On peut citer par exemple le Sénégal ou des pays comme ça où il est plutôt à l'aise. D'ailleurs, ce sont les mêmes bords politiques en termes de socialisme. Mais il y a d'autres ou social de la démocratie d'ailleurs, ou d'autres, où c'est au cas par cas. Le Togo par exemple, bon ben là c'est plus compliqué, on envoie 500 soldats du Togo, qui d'ailleurs sont souvent contrôlés par des militaires français eux-mêmes, discrètement, et donc ils vont continuer à travailler pour les militaires français, mais au Mali, donc c'est plutôt facile, et c'est dans le cadre, encore une fois, de cette zone franc, où on se demande finalement s'il y a une certaine souveraineté militaire de la part des pays francophones vis-à-vis de la France. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus ambigu là. Mais la réalité est que ça a une autre conséquence, c'est que ça maintient en place des autocrates, ça maintient en place un système qui ne reste pas les droits humains et les droits de l'homme, comme on vient de le dire, et ça laisse en place un peu une difficulté pour les partis d'opposition de fonctionner de manière démocratique pour accéder au pouvoir, puisque les élections passent leur temps à être complètement usurpées, donc on parle de contre-vérité des urnes, et apparemment, bah écoutez, c'est le statu quo, on n'a pas l'air de vouloir changer cela dès lors que ces pays togolais ou autres, acceptent de satisfaire telle ou telle demande française. On le voit aussi plus ou moins dans certains pays, autres, je ne vais pas les citer pour ne pas créer de problème, en Afrique centrale. Maintenant, troisième point qui se passe, c'est qu'il y a aussi ce que veut ce président Hollande, en tout cas d'après ce qu'il a pu dire dans ses différents textes et ses discours, et là c'est plus compliqué, c'est un peu comme Obama. Obama voulait faire un certain nombre de choses aux États-Unis, la décision se prend au Congrès, ça ne passe pas. Bon, alors il est condamné à mettre ce qu'on appelle le veto, c'est-à-dire que quand ça ne lui plaît pas, il peut dire non. Sauf que dans ces genres de circonstances, la réalité des relations, c'est le statu quo. Donc vous voyez bien ce qui se passe aujourd'hui. Il a reçu pratiquement l'ensemble des autocrates africains qui étaient les principaux dirigeants de la France-Afrique, du côté Afrique, dans les deux, trois derniers mois à Paris. Qu'est-ce qu'ils ont discuté? Écoutez, il faut lui demander. Mais la réalité, c'est qu'il ne les a pas mis demandé de changer. Donc, il a accepté le principe et en demandant, quelle que soit la contre-vérité des urnes, écoutez, on reverra ça plus tard aux prochaines élections. En gros, c'est ce qui se passe. Justement. Et donc, il a laissé, ou plutôt abandonné à son sort, les populations, alors qu'il prend l'énergie qu'il lui faut et qui lui est reconnue pour aller le faire, par exemple, en Syrie, en emmenant toute l'Union européenne. Donc, il y a un peu deux poids, deux mesures dans sa politique vis-à-vis de l'Afrique, surtout l'Afrique francophone, hein, où les autocrates sont plutôt laissés en sorte de statu quo, alors que dans les autres pays, notamment le cas de la Syrie, et plus particulièrement des opposants syriens, bah, elle a voulu prendre le devant, peut-être en maîtrisant moins le domaine, puisque la Syrie est beaucoup, beaucoup plus complexe en termes de rapport de force, et bénéficie au niveau des Nations Unies, de la Russie, et notamment de la Chine. Donc je pense qu'il lui faut un an et demi pour plus ou moins bien maîtriser que le système international n'est pas comme en Corrèze ou tout simplement comme la France voudrait que ça soit, et à partir de là, un certain nombre d'équilibres vont se refaire. Je crains, moi, que s'il n'arrive pas à atteindre ses objectifs sur le plan budgétaire, la pression sera telle qu'il sera obligé de laisser le statu quo continuer jusqu'au bout. Et ça, c'est ma crainte.
Merci.
Mais connaissant François Hollande et tout son dynamisme, il faut espérer que son rêve socialiste, évoluant de plus en plus vers la social-démocratie, puisse malgré tout bénéficier aux démocrates africains et donc faire évoluer cette Afrique sur le plan politique.
Merci, docteur Yves Kouamaïso. On va voir si notre invité Lazare Kizerbo partage également le même avis que vous. Hein, Lazare Kizerbo, je le disais, la présidente de la Commission de l'Union africaine, parle de renaissance de l'Afrique après 50 ans quand même. Hein. Alors, au cours de cette assise marquant les 50 ans de l'Union africaine, elle a également affirmé que le néocolonialisme continue. Hein. Est-ce que vous pensez que actuellement, François Hollande soutient-il toujours la France-Afrique?
Je pense qu'il faut encore une fois rester sur les principes fondamentaux, à savoir que aucun peuple n'a jamais libéré un autre. Comme dit le proverbe, dormir sur la natte des autres, c'est comme dormir par terre. C'est-à-dire que les processus de libération en Afrique seront identiques à ce qu'ils ont été ailleurs. Les peuples se sont organisés, se sont dotés d'organisations démocratiques. Les leaders ont payé un lourd tribut, les peuples aussi ont fait des sacrifices avant que les transformations ne voient le jour en fonction de l'intensité, effectivement, de ces luttes, de ce combat. C'est-à-dire la démocratie n'est pas quelque chose qui peut être donné. C'est la création, c'est la production d'un peuple. Alors, quand vous raisonnez en pensant que, bon, telle puissance qui a du poids, de l'influence, pourra souffler à telle autorité qu'il faut renoncer, ça ne pourra jamais remplacer, en fait, une culture politique. Quand il n'y a pas de culture politique, une culture démocratique, ben aucune influence ou injonction extérieure ne suffira. Et à ce titre-là, je pense que tout le monde est d'accord que dans les pays où il y a eu des processus endogènes de libération, ou en Afrique australe, ça a laissé quand même au niveau de la population, au niveau des institutions, une certaine tradition de participation populaire qui est très importante pour une vraie culture démocratique. Et donc, je pense que les citoyens qui sont dans des États où cette démocratie n'est pas en vigueur aujourd'hui, ont tendance à regarder à l'extérieur et solliciter pratiquement le secours d'autres puissances. Mais comme vous savez, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Alors si vous pensez qu'un État extérieur, européen ou autre, va vous apporter la démocratie sur un plat d'argent, dites-vous bien que s'il le fait, il va en retour. C'est une situation économique mondiale difficile, surtout en Europe. Il y a une régression alors que l'Afrique est en pleine croissance. Je pense simplement qu'il faut plus de confiance en soi au niveau de la jeunesse, plus d'éducation citoyenne, plus de connaissance aussi de notre histoire et des luttes que nos peuples ont mené dans l'histoire pour pouvoir affronter ce défi de la démocratisation.
Justement.
Donc, c'est ça.
Exactement. Merci beaucoup.
C'est la meilleure solution. C'est la meilleure voie, à mon avis.
Merci. En tout cas, c'est ça doit être ma dernière question que j'aimerais quand même vous soumettre. Là, vous avez déjà répondu à cette question sans que je ne voulais pas encore soumis, hein. Alors, docteur Yves Kouamaïso, selon vous, à quand et comment trouver la voie de rupture entre cette France-là, celle qui mènera les jeunes générations africaines au droit inaliénable de tous les peuples, c'est-à-dire l'autodétermination de Dr. Yves Kouyamaïso.
Non, je crois que vous n'avez pas bien écouté ce qu'a dit M. Kizerbo. Moi, je ne crois pas à la rupture. Je vais vous dire clairement, je ne crois pas à la rupture. C'est un processus, ce sont des évolutions. J'écris actuellement un livre pour les Américains et la Chine, justement sur ces processus dans les organisations, qu'elles soient des entreprises privées, des entreprises, mais aussi pour des États, des structures. Et donc, c'est d'abord une prise de conscience du peuple. Et sincèrement, ça passe par des sacrifices, ça a été dit. Donc, laissez de côté ce mot « rupture ». Ce sont des images qui, je ne sais pas d'où elles viennent, elles sont en fait même fausses, regardez bien comment se passent les révolutions. Il s'agit de tout un système qui se met en route en termes de prise de conscience, c'est juste à ce que les populations acceptent de ne plus travailler pour le régime qui les opprime. Prenez des pays comme le Togo, les gens préfèrent encore aller manger dans la main de ceux qui l'oppriment et demain venir manifester qu'ils sont opprimés. C'est un problème qui est schizophrène. Il faut que ça puisse évoluer. Tous les peuples sont passés par là. Ne croyez pas que c'est quelque chose qui est spécifique à l'Afrique. Mais ça évolue très vite. On l'a vu en Afrique centrale. Mais il a fallu que ça y ait Mandela est l'exemple. Tiki, 27 ans en prison. Qui allait lui dire qu'il soit président et amener la paix dans ce pays, en tout cas quand il dirigeait. Alors, voyez bien que ce processus va avoir lieu. Et ça va avoir lieu surtout quand le pouvoir d'achat augmente. C'est pour ça que je dis qu'il faut d'abord passer de cette économie en gros des pays, des gens pauvres, vers une classe moyenne. Et donc, quand les États vont refuser de plus en plus de faire, d'accaparer l'argent et de refuser que la masse augmente du pauvre vers la classe moyenne, alors cette classe moyenne va se révolter ou cette classe pauvre va se révolter. Alors, ça se fait dans des mauvaises conditions, ça passe par Al-Qaïda ou le Mujahou ici et là, mais sur le fond, ça va rester organisé. Il se trouve que la plupart de nos opposants aujourd'hui en Afrique ne sont pas aussi structurés pour aller vers une unité d'opposition ou de l'alternative. Là encore, il y a les trafics des égos, il y a tout ce que vous voulez. Comme on arrive à la fin de l'émission, je n'aurai pas le temps de développer, mais laissez tomber la notion de rupture. Venez plus sur la notion de transformation. Elle peut être, comme on dit, rapide ou elle peut être progressive, disruptive, disent les Anglais. C'est-à-dire quelque chose qui peut arriver par surprise. Mais il n'y a pas de surprise au fond. Ce sont ces prises de conscience. Et l'intellectuel que tel ou tel est a une contribution à faire. Ceux qui refusent, ceux qui ne participent pas, ceux qui n'éclairent pas, justement, soit la masse, soit les populations, je crois qu'ils font une faute grave. Maintenant, sur le fond, on ne peut pas se tromper, il faut des élections libres. Il faut des élections où la vérité des urnes sorte. Et sincèrement, regardez bien les pays africains, c'est là où il y a une vérité des urnes qui se passe à peu près comme il faut, que les choses avancent beaucoup mieux, que la diaspora rampe, vient avec des technologies, des affaires, du commerce, et les choses se mettent en route. Et puis on s'explique, quand on n'est pas content, il y a un système judiciaire qui fonctionne. Qui est responsable. Voilà. Donc c'est un ensemble de choses. Et sincèrement, ne dites pas à vos auditeurs qu'il faut aller vers une rupture parce que vous parlez plutôt de guerre civile ou parlez des choses que l'Afrique n'aime pas. Nous sommes des gens de paix.
Justement. On parle de rupture, on ne parle pas de guerre. Merci beaucoup. Docteur Yves Kouyamaïso et docteur en économie, consultant international, coordinateur du CVU Togo Diaspora, collectif pour la vérité des unes, également Lazare Kizerbo, africain de l'État du Burkina Faso, docteur en philosophie, fonctionnaire international de la francophonie, direction des droits de l'homme. Merci de nous avoir accompagnés, et nous expliquer ce que les Africains doivent faire pour une renaissance de l'Afrique. Merci et à bientôt. Bonsoir chez vous.
Merci, au revoir.
Bonsoir, Kizerbo.
Je vais mourir pour vous. Quand je regarde l'Afrique avec tous ses problèmes, je me demande Africa, mais qu'elle a fini. Quand je regarde l'Afrique avec tous ses canapés, je me demande Africa, mais qu'elle a fini. Oui.
Des cadavres un peu partout, hein. Où est-ce qu'on a fini? Du malade de Wani. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ses problèmes, je me demandais Africa, mais